Bah, Pierre Schaeffer est quelqu'un qui est un qui est certainement un des acteurs de la musique les plus importants au XXe siècle. Il a vraiment révolutionné la manière de composer et la manière de concevoir la musique. Les deux grands apports de l'extérieur dans la musique européenne, c'est finalement l'Afrique et l'électricité et l'électronique. Pour la première fois, Pierre Schaeffer a défini la musique non pas en termes de notes et de solfège, mais en termes de son. Et qu'au fond, quelque chose que moi j'avais, que je sentais en moi de manière informelle enfin non formulée, qui était le fait qu'au fond n'importe quel bruit peut devenir de la musique à partir du moment où on le considère comme tel et où on va le manipuler d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, en fait, la différence entre un bruit et un son musical, c'est finalement l'intervention qu'on va donner, l'interprétation qu'on va en faire. Et cette idée-là a changé complètement la manière d'écrire, de composer, de produire et même de consommer aujourd'hui de la musique. Le bruit que je n'aime pas du tout, c'est le bruit de la musique, quelle qu'elle soit, dans les restaurants. Ça m'est arrivé même de débrancher les enceintes parce que c'est quelque chose que je supporte pas, mais physiquement, c'est même pas une question morale en se disant finalement il y a de la musique qu'on n'écoute pas, c'est pas bien, etc. C'est même pas ça, c'est vraiment quelque chose de physique. Et puis, les sons que j'aime, il y en a beaucoup. Mais souvent, le son du vent dans les feuillages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette espèce de côté de bruit blanc, phasé, d'une certaine manière. On pourrait dire, c'est-à-dire, c'est un son qui est en perpétuel, qui est toujours le même, mais jamais le même. Je pense que mon contact avec le groupe de recherche musicale et Pierre Schaeffer en particulier, mais aussi François Bell, Bernard Parmigiani, enfin tout Guy Rebel aussi, qui a été mon professeur aussi, a été extrêmement formateur avec cette idée que Schaeffer avait, qu'on était stagiaire au départ, la première année, et ensuite on enseignait déjà et on encadrait les stagiaires de l'année suivante. Et donc il y avait ce rapport de va-et-vient entre ce qu'on reçoit et ce qu'on transmet, et que je trouve extrêmement, extrêmement intéressant. Et qui, moi, m'a beaucoup apporté. Mais ça m'a marqué définitivement. C'est-à-dire que, pour moi, la musique électronique, je l'approche de toute façon à la manière de la musique concrète. Je m'explique. C'est-à-dire que, pour moi, que la matière sonore soit une matière sonore qui vienne d'un matériau enregistré, d'un son, le son de la pluie, le son du vent, d'un train ou quoi que ce soit, ou que ça soit généré par une fréquence électronique, au fond, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est finalement la manipulation à partir de ce matériau sonore brut qui va faire la musique que j'ai envie de créer. Je pense que la musique électronique et électroacoustique d'abord, puis maintenant électronique, puisque tout est rentré dans cette appellation-là, je pense que c'est justement exactement la même chose que ce qui s'est passé en peinture. C'est-à-dire que pendant des siècles, on a été dans une relation figurative avec l'extérieur, c'est-à-dire au fond d'imiter et de reproduire ce qui se passait, et de manière et sans se préoccuper au fond tellement de la matière. Et finalement, ce qui est très intéressant dans l'appellation de musique concrète, on pourrait dire que comme la peinture, c'est de la musique abstraite. Or, Dubuffet, d'ailleurs, disait qu'il faisait de la peinture concrète, mais pas de la peinture abstraite. Et c'est exactement, je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que, pour moi, le fait de pouvoir faire de la musique au moyen de l'électronique ou de l'électroacoustique, c'est justement de plonger dans la matière. Ce que je disais, c'est de plonger dans cette espèce de matière sonore brute, comme un sculpteur, et de pouvoir, presque avec ses mains, de manière tangible, de créer des formes musicales, de créer des objets musicaux, comme le disait si bien Schaeffer dans son solfège, tel qu'il l'a défini dans le solfège des objets musicaux, de fabriquer des objets musicaux. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Dès la fin des années 40, quand Schaeffer définit la musique concrète, c'est quelque chose qui va évidemment complètement changer la manière, notre relation au son, la manière dont on va les fabriquer, dont on va les agencer, dans les composer, et aussi dont on va les recevoir. Et c'est vrai que dans la musique électronique, il y a deux sortes d'instruments, dans les instruments qui sont derrière moi. Il y a d'une part les synthétiseurs qui génèrent des fréquences électroniques et qu'on peut agencer, fabriquer, déformer, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle le sampling, enfin, l'échantillonnage en français, qui est issu directement de la technique de Schaeffer, c'est-à-dire d'enregistrer des sons qui peuvent être des sons de la nature, qui peuvent être des fréquences électroniques, qui peuvent être des extraits de musique existante, qui vont être déformés, transformés, considérés comme un matériau sonore brut, et qu'on va pouvoir enregistrer, découper en tranches, un peu comme à partir d'un jambon, on découpe des tranches, et qu'on en fasse des plats à partir de ces tranches brutes, qu'on en fasse des plats spécifiques en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc ce sont deux manières qui se rejoignent, mais deux manières quand même assez différentes de faire de la musique, même si aujourd'hui les techniques d'enregistrement font que tout ça se rejoint. Mais au départ, ce sont quand même deux techniques différentes qui vont d'ailleurs donner, historiquement, d'un côté le groupe de recherche musicale, de l'autre côté le studio de Cologne, de Stockhausen. En fait, vraiment, ce sont deux manières de concevoir le son de manière différente. Enfin, de concevoir le son. Deux manières d'approcher la composition musicale au moyen d'électronique ou électroacoustique qui sont assez spécifiques. Encore une fois, tout ça se rejoint aujourd'hui avec les logiciels qu'on a à portée de main. On mélange en permanence l'approche électronique et l'approche électroacoustique. Mais au départ, ce sont deux choses un peu différentes quand même. Alors, je pense qu'il y a une fascination et un mystère autour de la musique électronique qui est dû à plusieurs causes. La première, c'est effectivement le fait que on ne peut pas déceler l'origine des sons qu'on écoute. Le procédé de reproduction multicanale se justifie complètement dans la musique électronique, dans la mesure où on ne peut pas justement déceler et comprendre sentir l'origine d'un son ou sa nature. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les enregistrements 5.1 ou autres d'un orchestre symphonique n'a aucun sens, sauf à recréer, par exemple, le fait d'être à la Scala de Milan, de recréer l'univers, ou d'être à Bayreuth ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on a l'orchestre devant soi, et puis on a recréé, en fait, le son de la salle. Mais d'être au milieu de l'orchestre n'a aucun intérêt, puisque ce n'est pas la position du tout idéale pour écouter le résultat. En revanche, dans la musique électronique, le fait de spatialiser des sources qui sont des sources dont on ne peut pas déceler l'origine, prend tout son sens et tout son mystère en même temps. L'autre raison aussi, indépendamment du fait qu'on a des difficultés à analyser la source et l'origine d'un son électronique, c'est aussi cette espèce de méfiance et de peur face à la technologie, notamment au XXe siècle. Ça commence un peu à disparaître aujourd'hui, mais ça reste quand même dans l'inconscient. C'est-à-dire que finalement, des sons qui sont fabriqués, des sons par des machines, maintenant on est derrière tout ça, mais il y a eu quand même très longtemps, la musique électronique a charrié ce handicap. Ce n'était pas des instruments de musique qui étaient à l'origine de ces sons, mais plutôt des machines. Alors que finalement, évidemment, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une opinion culturelle et c'est une habitude culturelle. C'est-à-dire que si on met un piano à queue dans certaines tribus, au milieu de certaines tribus africaines ou chez les pygmées, les gens autour ne vont pas ils vont peut-être penser que c'est une navette spatiale, mais pas nécessairement l'intégrer à l'idée d'un instrument de musique. Donc c'est la même chose pour les synthétiseurs. Aujourd'hui, tout le monde plus ou moins considère que c'est un instrument de musique parce que tout simplement, culturellement, on l'a digéré. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Donc ça a aussi généré cette confusion. La troisième raison, c'est que pendant des années, la musique électronique a été considérée comme une musique froide, robotique et sans émotion, Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu, un grand succès de musique électronique dans les années 60 qui s'appelait Swish and Back de Walter Carlos, qui est devenu Wendy Carlos, qui a brillamment, d'ailleurs, recréé des œuvres de Bach sur, avec un Moog modulaire, c'est-à-dire sur l'instrument qu'on voit là-bas. Et donc, les gens se sont dit, bon, ben, finalement, le synthétiseur, c'est un instrument pour imiter les instruments acoustiques. Donc, c'est pas un véritable instrument. Ensuite, il y a eu toute la vague allemande de Kraftwerk, Tangerine Dream, Klaus Schulze, etc., qui ont fait l'apologie de la machine d'une manière très germanique, en disant finalement, ces instruments électroniques font de la musique à la place des humains. Alors, de manière très brillante, avec Kraftwerk qui a fait de toute cette approche robotique et très froide un style à part entière. Des gens comme Tangerine Dream qui, à la fin de leur performance, même quittaient la scène et laissaient les séquenceurs jouer tout seuls. Qui a continué à induire cette confusion ou à nourrir cette idée qu'au fond, la musique électronique n'était pas de la vraie musique, puisque finalement, c'était les machines qui le faisaient à la place des hommes. Et puis ensuite, il y a eu troisième confusion, il y a eu les DJ qui sont venus avec des platines et qui en fait passaient la musique des autres en la transformant, mais finalement, ce n'était pas, pour l'inconscient collectif, pour les gens, de la vraie musique, puisque c'était finalement de la musique qui était... c'était de la musique des autres retransformée et filtrée. Et c'est que depuis, finalement, je pense, une dizaine d'années, que la musique électronique, maintenant, devient, je dirais, presque normale, c'est-à-dire dans la manière dont elle est fabriquée, où on se dit, bon, bah, aujourd'hui, effectivement, entre un instrument, un synthétiseur et un violon, il n'y a pas trop de différence. Et puis, la dernière raison par rapport au mystère, c'est la fascination face à la technologie de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a un côté science-fiction, il y a un côté futuriste, que ce soit rétro-futuriste ou pas. D'ailleurs, beaucoup de futurisme sont plutôt rétro-futuristes, d'ailleurs, surtout aujourd'hui, et où on se réfère à une vision du futur qui appartient plutôt au passé qu'à l'avenir. Et donc ce mélange à la fois de mystère, de fascination, lié au mystère et à la science-fiction.